Bernadette Chamonnaz, bonjour Bernadette.
Bonjour, loi antiterroriste, sans problème, elle passe au Sénat, adoptée à une large majorité, amendée à la marge. Perquisition, assignation à résidence, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'état d'urgence? On fait le point avec Jean-Philippe Deniau. Le texte sera devant les députés à la rentrée. Les assistants parlementaires payés par l'Europe, Jean-Luc Mélenchon dans le viseur de la justice. François Léotard mis en examen dans le financement de la campagne présidentielle Balladur. L'affaire date d'il y a 22 ans. Pourquoi tant de lenteur? Titre de séjour, des heures d'attente pour les renouveler devant les préfectures. Pourquoi tant de lenteur? Nous irons à Jérusalem, haute tension sur l'esplanade des mosquées. Dunkerque, le dernier Nolan, l'homme sous les bombes, impressionnant. Et puis le Tour de France à l'assaut des Alpes, le jour ou jamais pour Bardet.
France Inter.
Une seule journée de discussion, le Sénat a adopté hier soir la loi antiterroriste qui doit prendre le relais le 1er novembre de l'état d'urgence. Large majorité pour, 229 élus de la droite, LR et centristes, les sénateurs En Marche et ceux du PRG. Et 106 voix contre, socialistes, communistes, Front National, pas pour les mêmes raisons d'ailleurs, pas assez de sécurité pour le FN. Pour la gauche, c'est la liberté qui est menacée. Des juristes aussi ont alerté, titre d'une tribune dans la presse ce lundi, despotisme doux. Jean-Philippe Deniau, bonjour.
Bonjour Bernadette.
Alors la balance sécurité-liberté est-elle à l'équilibre? Concrètement, comment se présente ce matin, au lendemain de son adoption par le Sénat, ce texte?
Alors c'est globalement le texte du gouvernement qui a été adopté avec facilité cette nuit. Les sénateurs ont avalé les principales mesures de l'état d'urgence en confiant à la justice administrative un grand nombre de compétences, l'assignation à résidence, les perquisitions, les saisies de données informatiques, la fermeture des lieux de culte ou encore la mise en place de périmètres de protection pour certains grands événements. Ont également été adoptés le PNR, le traçage des passagers aériens, la surveillance des communications téléphoniques sans passer par les opérateurs et les mesures de contrôle renforcées dans les gares, les ports, les aéroports. Le texte est donc passé facilement, oui, mais avec quelques touches de prudence des sénateurs pour tout ce qui concerne les perquisitions, le contrôle, la surveillance administrative des individus. Ils instaurent une date butoir au 31 décembre 2021 avec d'ici là une évaluation annuelle des dispositions. On notera au passage que la perquisition est gentiment rebaptisée « visite domiciliaire et saisie ». Elle sera décidée par un préfet, puis validée par un JLD, un juge des libertés et de la détention, et le procureur de Paris en sera tenu informé.
Merci Jean-Philippe Deniau. Je précise donc que le projet de loi va maintenant partir à l'Assemblée nationale. Il sera débattu à l'automne. Une seule lecture dans chaque Assemblée. Le gouvernement a souhaité une procédure accélérée.
8h03 à Bernadette Chamonnaz. L'ancien ministre François Léotard mis en examen à son tour dans l'affaire du financement de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995.
Mis en examen en tant qu'ancien ministre de la Défense par la Cour de justice de la République pour complicité d'abus de biens sociaux. Soupçon de financement illégal de cette campagne électorale, alors qu'Édouard Balladur, rival de Jacques Chirac à l'époque, n'avait pas le soutien du parti de la droite. La justice s'intéresse à des commissions sur des contrats d'armement, affaire qui date donc d'il y a 22 ans. Alors question, Sarah Guibaudeau, pourquoi tant de lenteur de la part de la justice?
Édouard Balladur et François Léotard ont aujourd'hui 88 et 75 ans. Plus de 20 ans après les faits, les juges du pôle financier ont peut-être pu, grâce à une incroyable enquête, percer le mystère de ces 15 millions de francs déposés en liquide sur le compte de campagne d'Édouard Balladur. Grâce à des témoignages et des documents bancaires, ils ont retracé le chemin de ces billets ramenés de Suisse par l'intermédiaire Ziad Takieddine, de l'argent sans doute détourné des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan, au détriment des constructions navales, donc du contribuable. Mais l'enquête est terminée depuis 3 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la Cour de justice de la République pour mettre en examen l'ancien Premier ministre et son ancien ministre de la Défense. Après François Hollande, Emmanuel Macron promet aujourd'hui de supprimer cette juridiction spéciale. Ceci dit, la justice ordinaire n'est pas plus rapide. Enlisée dans une bataille de procédures, 6 personnes, dont les anciens conseillers ministériels Nicolas Bazire et Renaud Donne-Dieu de Vabre, sont renvoyés en correctionnel. Le procès est retardé par de multiples recours.
Sarah Guibaudot, assistant parlementaire payé aux frais de l'Europe. Jean-Luc Mélenchon à son tour dans le collimateur de la justice. En tant qu'ancien député européen, le leader de la France insoumise est donc à son tour concerné par l'enquête préliminaire du parquet de Paris. Il doit cette attention à une élue Front National qui l'a signalée donc à la justice. Accusation balayée par l'un des plus proches de Jean-Luc Mélenchon, le député Alexis Corbière.
Il n'y a rien qui nous est reproché. Hein. La justice n'a rien dit. La seule chose qui a eu lieu, c'est qu'il y a une dirigeante du Front National, fort empêtrée dans toute une série d'histoires, qui fait la dénonciation complémentaire. C'est très bien, parce qu'évidemment, le parquet, instruit de cela, veut savoir quelle est la réalité. Et moi, je vous dis, il n'y a que dalle. Il n'y a eu aucun emploi fictif. On n'avait qu'un seul parlementaire européen, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Son équipe a bossé pour lui, Jean-Luc était sur tous les fronts. Croire que sur cette enveloppe, il y avait quelqu'un qui n'était pas employé à enrichir le travail du parlementaire Mélenchon, mais était payé à faire autre chose, est une vaste blague.
Une visite surprise hier soir à la réunion des députés En Marche avec le ministre des Relations avec le Parlement, celle du président de la République. Il est venu leur dire « tous ensemble, un seul objectif, l'intérêt des Français ». Il faut dire que les premières divergences dans la majorité En Marche apparaissent, notamment sur les coupes dans le budget de la défense et surtout pour Emmanuel Macron, pas de frondeur dès le début de son quinquennat.
8h06, l'actualité sociale, Bernadette Chamonaz, GM et S, le temps presse.
Oui, c'est aujourd'hui que le tribunal de commerce de Poitiers examine l'unique offre de reprise de l'équipementier automobile. Décision ce vendredi et cette fois, il ne devrait pas y avoir de délai supplémentaire. Alors pour faire un dernier point avec les salariés, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a décidé d'aller sur place. Il se rendra donc aujourd'hui à l'usine de la Souterraine dans la Creuse. Pas sûr qu'il voit grand monde d'ailleurs, puisque la moitié des salariés est à des centaines de kilomètres de là. Ils ont passé la nuit devant un site Renault de Lyon. Ils veulent y rester jusqu'à ce qu'on entende leur revendication principale, que GMD reprenne plus que 120 salariés sur les 277 actuels. Et puis autre crise sociale, Hippopotamus, une vingtaine de restaurants de la chaîne sont promis à la vente. Pour certains, c'est déjà acté. Pour celui de Paris, par exemple, 10e arrondissement. La vente est signée aujourd'hui et les 19 salariés ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés. Clara Lecoq-Réal, depuis la semaine dernière, ils occupent le restaurant jour et nuit.
Bonjour monsieur, pour les employés Hippopotamus, pour les soutenir.
Juste un petit nom, un prénom, une signature. Merci beaucoup.
10 jours qu'ils tractent plutôt que de servir leurs clients.
Si vous voulez bien signer la petite pétition qui est juste là.
10 jours qu'ils occupent le restaurant, même la nuit. Les salariés ont les yeux cernés, les nerfs vifs.
On passe nos journée ici, on ne voit pas notre famille. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai donné 17 ans de ma vie, c'est mon seul travail.
Soda, serveuse depuis 17 ans donc, a surtout une boule au ventre qui ne la quitte plus.
L'acquéreur, on ne sait pas s'il a les reins solides, on n'a pas d'informations sur lui. On aimerait bien avoir des garanties, noir sur blanc, on ne sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain.
La direction du groupe Flo, qui possède Hippopotamus, évoque des difficultés financières. Elle promet qu'en achetant le fonds de commerce, le futur acquéreur reprendra tous les salariés. Il s'y est engagé. Mais pour en faire quoi? Cet entrepreneur refuse de parler tant que la vente n'est pas signée. Alors en attendant, Marie Oriodo se renseigne comme elle peut. Elle est déléguée CGT chez Hippopotamus.
Dans le projet de cession, on nous a montré qu'il avait 2 sociétés spécialistes de la restauration. Je regarde les restaurants. Sur les 2 présentés, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, liquidation en 2006. Pour nous, c'est pas rassurant.
Au total, une 20aine de restaurants de la chaîne Hippopotamus devraient être vendus en France, au plus offrant. Et la CGT craint qu'il y ait à chaque fois des salariés oubliés.
Clara Lecoq-Réal, le plafond des indemnités prud'homales pour licenciement abusif qui est prévu, donc ce plafond dans la loi travail. La ministre propose 2 mois de salaire par année de présence, donc comme plafond, ce qui signifie qu'un salarié qui serait depuis 2 ans dans l'entreprise toucherait seulement 2 mois de salaire. Actuellement, c'est 6 mois minimum. Les syndicats ne sont donc pas du tout d'accord et la fin des négociations risque d'être houleuse. Indigne ce qui se passe en ce moment devant les préfectures pour les étrangers qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour. Une attente interminable, du jamais vu à ce point. Reportage devant la préfecture de Nanterre de Laurent Grollet.
Ce qui frappe, c'est le calme de ces centaines de demandeurs de titres de séjour massés devant la préfecture. Dignité de Lorraine qui attend pourtant depuis 4h30 du matin et s'apprête à rester 24 heures de plus.
J'ai pas de choix parce que mon titre de séjour là, sinon je peux pas travailler, je peux rien faire, je peux pas payer ma maison. Il est 11h49 et je reste jusqu'à demain à 9h. Je suis obligée de rester. Vous voyez, il y a des chaises là-bas, j'ai des gens qui dorment ici, il y a des matelas, il y a tout ça. On n'a pas de choix.
D'autres
manifeste un peu plus d'agacement face à une situation qui se répète chaque année dans une sorte d'indifférence des autorités.
C'est parce que ce n'est pas un service dédié spécifiquement aux Français. C'est un service pour les étrangers. Il faut être clair, ça c'est indigne pour la dignité humaine. Quand on parle des pays des droits de l'homme, c'est indigne.
Pour la CIMADE, Élise Faron, qui vient en aide aux demandeurs, cette situation d'embouteillage indigne symbolise le manque manifeste de volonté politique.
Si on prend le contexte d'il y a une vingtaine d'années, on était déjà dans un contexte de crise économique, on avait déjà une montée du Front National, enfin voilà, on avait déjà ce même type de contexte, on avait vraiment beaucoup plus de personnes qui accédaient à une carte de résident de plein droit. On n'était pas du tout dans cette logique à laquelle on est arrivé aujourd'hui, de précarisation totale des personnes étrangères.
Et la préfecture de Nanterre avait pourtant promis il y a une semaine de nouveaux aménagements pour fluidifier donc le traitement des dossiers où l'on voit que rien n'a changé. À Jérusalem, un risque sérieux d'escalade aujourd'hui. L'appel lancé par le principal parti palestinien pour la tenue d'un jour de colère, appel à manifester, qui fait suite au renforcement de la sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Décision prise par les Israéliens après la mort de deux policiers tués la semaine dernière à proximité de l'esplanade. Et pour Étienne Monin, la situation est explosive.
Avec cette situation, la porte des Lions est devenue le thermomètre de Jérusalem. C'est l'une des entrées pour l'esplanade des mosquées. Elle est maintenant barrée par 5 détecteurs de métaux, près desquels des dizaines de Palestiniens font des prières de rue en signe de protestation, explique Tarek.
C'est une question de dignité. On considère que cet endroit est un endroit de prière, que c'est l'endroit qui nous relie à Dieu. On n'accepte pas d'être fouillé ici et on boycotte ces détecteurs de métaux.
Ce week-end, les leaders palestiniens, jordaniens et israéliens avaient semblé vouloir faire baisser la tension, mais les autorités religieuses ont refusé de rentrer sur le site. Il y a blocage et course contre la montre pour éviter l'escalade de la violence, explique Ofer Salzberg de l'International Crisis Group.
On voit un blocage où Israël insiste que les détecteurs de métaux restent où ils sont et les leaders palestiniens insistent qu'ils doivent être enlevés. Comme si c'était binaire et comme si donc un compromis est impossible. En plus, vendredi, avec des grands nombres de manifestants, des gens qui veulent prier, et donc en fait une urgence à traiter cette question avant vendredi.
L'esplanade des mosquées est le site le plus sensible dans la région, capable d'après les observateurs de provoquer un soulèvement. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
En sport, football féminin, les Bleus gagnent leur premier match de l'Euro 1-0 hier sur l'Islande, mais ça a été très dur et il faudra être plus percutant samedi face à l'Autriche. Le Tour de France à l'assaut des Alpes, à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, 4 premiers coureurs qui se tiennent toujours en moins de 30 secondes. Romain Bardet, le Français, est à seulement 23 secondes de Christopher Froome. De quoi espérer, si j'ose dire, un maillot jaune tricolore, 32 ans après Bernard Hinault. Ce serait donc un premier Français maillot jaune et ça fait long quand même, 32 ans, à tel point que certains coureurs tricolores qui ne sont pas dans la même équipe que Romain Bardet n'hésitent pas à faire de lui une cause nationale. Xavier Monferrand.
Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même patrie. Warren Barguil, le meilleur grimpeur du Tour, est clair. Il aidera Romain Bardet dans les Alpes s'il le peut.
Pour lui, la victoire en général, je pense que c'est vraiment possible. Et si c'est le cas, j'espère être de la partie pour pouvoir l'aider à gagner. Ce serait bien qu'un Français gagne le Tour. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Déjà, d'être si proche comme il fait, je pense que c'est déjà une grosse satisfaction pour les Français.
Il y a aussi ceux qui veulent bien prêter main forte à Romain Bardet, mais avec des moyens limités, comme Florian Vachon.
Je ne vais pas l'aider trop en haut de montagne, je pense pas. Forcément, on va pas aller le gêner au pied d'un col ou quoi que ce soit, même si on n'a pas le Moméo, mais on a quand même cette fierté d'être Français et on a envie qu'un Français triomphe depuis le nombre d'années que c'est attendu.
Pour autant, l'idée de porter Romain Bardet vers la victoire sur ce Tour ne fait pas l'unanimité parmi les coureurs tricolores du peloton. Pas question de crier cocorico pour Amaël Moinard.
J'apprécie énormément Romain, c'est même un ami parce que je m'entraîne régulièrement avec lui, mais après, ça reste de la compétition, chacun doit être à sa place et ne pas forcément influencer pour l'un ou pour l'autre. Moi, je reste très très neutre là-dessus.
D'autant que le Tour de France, c'est aussi une compétition entre sponsors, pas sûr que certains voient d'un bon œil leur coureur épauler le leader d'un concurrent. Lamure, Xavier Monferrand, France Inter.
Alors aujourd'hui, étape mythique avec 3 cols mythiques. La Croix de Fer, le Télégraphe, le Galibier. Il s'attaque après Batman, Inception, Interstellar à la grande histoire. Christopher Nolan, de retour au cinéma avec son nouveau film très attendu. Il sort aujourd'hui, Dunkerque, le sauveur. sauvetage impossible que l'on croyait impossible pendant la Seconde Guerre mondiale de 400 000 soldats dans la nasse de Dunkerque encerclés par les troupes allemandes. C'est l'opération Dynamo. Le réalisateur s'en empare avec brio, Corinne Pellissier.
La plupart des scènes ont été tournées à Dunkerque, sur la plage, à l'endroit exact où a eu lieu en mai 40 l'évacuation par la flottille civile de ces milliers de soldats qui se pensaient abandonnés de tous. Un sauvetage improbable, filmé à hauteur d'homme, en 70 mm, avec très peu d'effets spéciaux pour un résultat très immersif. Les bombardements, les batailles aériennes, les naufrages, tout est documenté, orchestré comme dans un thriller. Christopher Nolan signe avec Dunkerque son film le plus humain, le plus personnel, une histoire qu'il cherchait à adapter depuis longtemps.
Pour moi, c'est d'abord une histoire de survie. 400 000 hommes, sur une plage, encerclés par l'ennemi. Je voulais vraiment rendre toute sa dimension cinématographique à ce récit. Quand vous tournez une fiction pure comme la trilogie Batman, vous devez toujours en rajouter des caisses pour susciter l'effroi, alors qu'il y a dans Dunkerque tout le poids de l'histoire. Un vrai récit apocalyptique.
Une véritable course contre la montre, renforcée par une musique lancinante et un chrono qui ne s'arrête jamais. Le spectacle est partout, sur la mer, sur la terre, dans les airs. Des images magnifiques, très peu de dialogue et des personnages inscrits dans des temporalités différentes pour accentuer la tension d'un récit qui ne mettra sans doute pas tout le monde d'accord. Dans une ville où de nombreux Français conservent de cet épisode un sentiment d'abandon assez fort.
Un appel a été lancé, on doit aller à Dunkerque.
Voilà l'opération Dynamo. La France, alors, n'avait pas encore capitulé. Dunkerque de Christopher Nolan, pardon. À voir pour le cinéma et pour l'histoire.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz.